Donc mon message aujourd'hui s'intitule « C'est l'heure ». C'est l'heure. Donc c'est l'heure de prendre votre Bible, de prendre un stylo, de prendre un papier. C'est l'heure d'écouter attentivement. Mais la parole de Dieu et le Seigneur avant tout nous donne comme un signal d'alarme qui retentit « C'est l'heure ». Et dans l'épître aux Romains, au chapitre 13, donc l'apôtre Paul est en train d'exhorter les chrétiens dans ces passages, donc sur la vie chrétienne, sur leur comportement, sur leur attitude. Et au verset 11, donc de Romains 13, donc là il vient de parler de l'amour, et il continue en disant, Romains 13, 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. » Dépouillons donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Donc là, il dit une chose intéressante. Il dit, cela importe d'autant plus, donc l'amour et tout ce dont il a parlé, que vous savez dans quel temps nous sommes. Et ensuite, il dit, c'est l'heure. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près que lorsque nous avons cru. Et plus tard, l'apôtre Pierre dira, la fin de toutes choses est proche. Dans 1 Pierre 4, verset 7. Donc on n'est pas supposé ne pas savoir dans quel temps on est. Au contraire, Dieu nous montre, et la parole de Dieu nous apporte des éclaircissements sur les temps dans lesquels nous vivons. Et une chose est sûre, c'est que nous ne sommes pas dans le temps où nous sommes par hasard. Si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est parce que Dieu savait pourquoi, pour quelle raison et dans quel but. Et donc on pourrait penser parfois que l'heure est grave quand on voit tout ce qui se passe dans le monde. Et encore ce qu'on a entendu tout à l'heure, quoi, que même tout près de nous, il se passe des choses terribles qu'on peut peut-être même pas imaginer. Mais même si l'heure est grave, ben c'est l'heure de réagir justement. D'habitude, quand on dit c'est l'heure, on donne un signal. Donc si moi je sais que c'est l'heure le matin de me lever, eh ben j'arrête mon réveil et je me lève. Quand je sais que c'est l'heure de partir, j'arrête de faire l'occupation que j'avais et puis je sors. Donc souvent, faire quelque chose parce que c'est l'heure de le faire, ça suppose aussi d'arrêter de faire autre chose. Hein? Et donc, si on veut avancer dans la vie, on a besoin aussi de comprendre et d'accepter qu'il y ait du changement. Et dans 1 Pierre 2, 9, et c'est comme ça que le culte a été introduit aussi. Donc, 1 Pierre 2, 9. On peut lire là, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc Dieu nous a appelés des ténèbres à la lumière. Donc il y a eu un changement. Et une fois qu'on est dans la lumière, on ne peut plus être dans les ténèbres en même temps. C'est pas possible. Mais Dieu nous a appelés, nous a mis à part. Quand il est dit là, vous, au contraire, ça veut dire que nous, on n'est pas comme tout le monde. On n'est pas comme les gens qui errent comme ça dans la vie. Et dans le monde, qui ne savent pas trop pourquoi ils sont là, qui ne savent pas trop où ils vont. Nous, Dieu a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Annoncer les vertus de Dieu, c'est annoncer sa bonté, annoncer sa puissance, annoncer qui il est. Et nous sommes sauvés pour ça, nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Et donc, Paul disait, c'est l'heure de se réveiller. Et c'est important que nous nous réveillons aussi. Pas forcément qu'on soit en train de dormir, mais parfois quand il y a des situations dans lesquelles on est, on a besoin quelque part de se réveiller, de réaliser qu'il y a un problème, et nous de comprendre qu'on est là pour quelque chose. On a besoin pour avancer dans la vie et pour entrer dans d'autres dimensions, dans des choses plus élevées, de changer certaines choses. On a besoin de changement. Et notre vie est toujours remplie de défis. Et refuser les défis, tout simplement, c'est refuser d'avancer. Que si on ne relève pas un défi, ben on reste où on est. Et à un moment donné, on est coincé, on ne peut plus avancer. Et donc dans 2 Rois 7, dans l'Ancien Testament, j'ai trouvé une histoire intéressante. Donc là, c'était la ville de Samarie qui était assiégée. Donc il y avait les ennemis dehors. Et donc ils étaient coincés dans la ville. Et ils commençaient à manquer de vivres. Et donc il commence à y avoir une famine. Et à partir du verset 3, on peut lire qu'il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. » C'est pas mal, hein, le choix qu'ils ont. « Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Même là, ils ne sont pas encore tellement sûrs de leur coup. Ils risquent encore une fois de mourir. Mais ils partirent au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Donc là, on voit qu'il y a toute une ville qui est en train de périr parce qu'ils n'ont plus de quoi manger. Et puis les quatre lépreux, ils sont là, ils sont à la porte. Donc les lépreux, c'est des gens qu'on n'aimait pas, hein, qu'on mettait à l'écart, ils n'avaient pas le droit de se mélanger avec la foule. Et à un moment donné, ils se disent « Mais attends, on ne peut pas rester comme ça. Si on reste là, on meurt. Si on va en ville, on meurt. Et si on va dans le camp de l'ennemi, soit on meurt, mais peut-être qu'ils vont nous laisser vivre. » Ils n'étaient pas certains de leur coup. Et quelquefois, il y a des défis qu'on doit relever. On n'est pas sûr à 100% que ça va nous aider. On dit peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher. Mais il y a toujours une solution quand même. Et parfois, ça suppose de prendre un choix et d'y aller. Parce qu'ils auraient pu très bien rester là et dire « Bon, ben, c'est terminé, on va mourir. » À faire classer. Parce que je sais même pas s'ils tenaient vraiment beaucoup à leur vie, parce qu'ils n'avaient pas la meilleure vie. Dans ce temps-là, les lépreux, ce n'étaient pas les gens qu'on préférait. Mais pourtant, eux, que les autres n'aimaient pas, une fois qu'ils ont été dans le camp, qu'ils ont vu que Dieu lui-même avait déjà fait le ménage, qu'ils ont pu se nourrir, prendre des choses, eux, ils ont pensé aux autres. Ils ont dit, nous pouvons pas, nous n'agissons pas bien, c'est un jour de bonnes nouvelles. Mais tant que personne n'avait bougé, il ne se passait rien. Et pourtant, Dieu, pendant la nuit, avait déjà fait partir l'ennemi. Mais si eux ne s'étaient pas dit, attends, maintenant il faut réagir, c'est l'heure de bouger, il ne se serait rien passé. Peut-être que tout le monde serait mort. Donc parfois, il faut pouvoir relever les défis. Et dans ce monde, peut-être que quelqu'un est en recherche spirituelle, parce qu'on a tous à l'intérieur des vides qu'on a besoin de combler, et surtout quand on ne connaît pas le Seigneur. Et donc les gens peuvent se dire, soit je vais dans les plaisirs du monde, ce que fait tout le monde, je vais me divertir un peu, je vais essayer de gagner beaucoup d'argent, je vais m'acheter des belles choses, mais à la fin, ça amène à la mort. Une autre solution, ça peut être de rentrer dans une religion, dans un système ou dans un mouvement de pensée. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les sectes arrivent à pulluler, parce qu'ils savent que les gens ont besoin de quelque chose et ils apportent des fausses réponses. Et donc, au bout d'un moment, on se rend compte que ça aussi, ça amène à la mort. Et puis alors, peut-être qu'on voit ces églises un peu originales, un peu à part, ces chrétiens un petit peu excités, comme disent certains. Et là aussi, on se dit, mais attends, le standard est trop haut. Je ne peux pas aller chez eux, j'ai fait trop d'erreurs. Leur Dieu, là, il va me tuer quand je lis la Bible. C'est pas possible. Et c'est ce qui devrait arriver, normalement. Normalement, on devrait tous être morts aujourd'hui. Mais il y a quelqu'un qui est mort à notre place. Jésus est allé à la croix à notre place. Il a pris sur lui tout ce qui pouvait peser aujourd'hui sur nos épaules. Il l'a pris sur lui pour qu'aujourd'hui nous ayons une solution, nous ayons une alternative qui est de choisir Jésus. Parce que dans ce monde, il n'y a rien qui peut nous apporter autre chose que la mort. Mais Jésus nous donne la vie et la vie abondante. Amen. Et nous qui avons été appelés des ténèbres à la lumière, nous avons cette vie pour nous, mais aussi pour la partager. Donc c'est important de se réveiller. Comme ces lépreux qui étaient dans une situation qui paraissait bouchée, eh bien, ils ne se sont pas simplement contentés de dire « oui, ça va mal dans le monde, c'est triste », et puis de faire leur petit bonhomme de chemin. Non, ils ont dit « maintenant il faut bouger, il faut faire quelque chose ». Donc c'est l'heure de se réveiller. La nuit avance et le jour approche, disait Paul dans Romains. la nuit avance, le monde ne va pas de mieux en mieux. Quand on regarde autour de nous, c'est peut-être même pire. Et dans nos pays aussi. Dans beaucoup de sujets et dans toutes les générations, Satan a cherché à détruire les gens. Que ce soit peut-être par les drogues ou par toutes sortes de mensonges ou que ce soit par le sida ou soit par l'avortement aussi, dont on se félicite actuellement. Je ne sais pas si vous regardez un peu les infos et tout ça, mais on nous fait un vrai matraquage pour nous faire croire que l'avortement, c'est un progrès. Et même dans les écoles, il y a des heures spéciales consacrées à ça, avec le planning familial. Et ma petite sœur Damaris, ça a eu droit à ça. Et donc, ils ont demandé qui est d'accord avec l'avortement. Et parmi les collégiens, en troisième, quasiment tout le monde était d'accord. Et alors Damaris, bien sûr d'elle, elle a dit « Non, moi, je ne suis pas d'accord. » Et ça n'a pas pu passer à la fin. La personne l'a pris à part. Il a dit « Si, l'avortement, c'est bien, etc. » Donc, on voit où on en arrive dans nos pays. C'est plus de la liberté qu'on donne. La liberté, c'est de leur dire, c'est de leur montrer l'avortement peut-être, mais de leur montrer aussi ce qu'est la vie, la valeur de la vie, et pour qu'ils puissent choisir. Maintenant, sans prendre position pour la vie. Je veux dire, normalement, si on parle de liberté, de démocratie, on donne les éléments aux gens pour choisir. On ne leur dit pas, tu fais comme ça, c'est plus de la liberté après. Donc on voit jusqu'où on en arrive. Donc je ne veux pas maintenant faire de la politique ou dire que le planning familial, c'est pas bien, ils font ce qu'ils font. Mais de voir que nous aussi, nous sommes concernés. Nous aussi, il y a des situations qui sont problématiques dans nos pays et pour nos vies. Et pour nous aussi, c'est l'heure de nous réveiller. C'est l'heure de risquer, d'oser croire qu'on peut apporter un témoignage positif. D'oser croire qu'on peut parler en faveur de la vie aussi, dans cette société.
J'avais vu une interview d'une personne qui, en anglais, elle disait elle était pro-life, pour la vie. Ben, la personne a traduit, elle est pour l'avortement. Elle est contre l'avortement. Donc, il y a une différence de dire qu'on est pour la vie ou une différence de dire qu'on est contre l'avortement. C'était pas la même chose, mais ça a été perverti. Mmh.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se réveiller, de relever les défis qui sont devant nous. Et peut-être pour quelqu'un aujourd'hui, c'est peut-être l'heure aussi de choisir vraiment pour Jésus. Peut-être d'oser croire qu'effectivement Jésus est mort pour nous et qu'on a un espoir en lui. Même si on est peut-être chrétien depuis longtemps, des fois, il faut qu'on réalise, et comme on en a parlé tout à l'heure, qu'on se rende compte, oui, c'était vrai. Oui, c'est réel, c'est pas seulement comme ça, c'est pas juste une pensée que j'ai, c'est réel. Donc c'est l'heure de se réveiller. Et ensuite, c'est l'heure de vivre l'Église. Amen. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien. Quand on est sauvé, on n'a pas seulement été sauvé, puis on est comme ça. On a le droit de faire partie de l'Église. Et donc l'apôtre Pierre, qui disait tout à l'heure que la fin de toute chose est proche, on va regarder ensemble, il ne dit pas seulement ça, il nous donne aussi des instructions. Donc on va lire ensemble dans 1 Pierre 4, à partir du verset 7. Donc la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc la première chose qu'il nous dit, c'est prier. La prière, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Je crois qu'on le sait, on l'a compris, mais c'est important qu'on réalise combien la prière, c'est important. Donc, je ne vais pas développer beaucoup sur la prière, mais la prière, c'est ce moyen extraordinaire, surnaturel pour nous de communiquer avec Dieu, de parler avec Dieu, mais aussi pour Dieu de parler à travers nous, de nous parler à nous, mais aussi de parler à travers nous. La prière conduite par le Saint-Esprit peut transformer des situations, peut changer complètement des cas. Et ce que Dieu veut faire, c'est se servir de nous. Nous sommes un choix stratégique de Dieu dans ce monde. Et nos prières même peuvent être une stratégie de Dieu. Quand nous prions, nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit. Et tout d'un coup, parfois, nous pouvons même prier des choses qui peuvent peut-être même nous étonner. Ou deux, trois jours après, il se passe quelque chose. Tu dis, tiens, c'est bizarre, l'autre jour j'ai prié à ce propos. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je pense que ça devrait nous arriver. Parce que Dieu veut nous utiliser dans ce monde aussi pour pouvoir influencer ce qui se passe. Quand Dieu nous montre quelque chose, ce n'est pas seulement pour dire « Ouais, bon, il va y avoir ça. » Mais souvent, Dieu attend aussi de nous que nous nous laissions simplement utiliser comme un canal et parfois pour empêcher ou transformer des situations. Et Jésus dit quelque chose d'intéressant en Matthieu 18:18. Il dit « Ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel et ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. » Et souvent, on a compris qu'on peut lier des choses, on peut lier des esprits méchants, on peut lier des maladies, on peut lier des influences, etc. Ça, on l'a compris et souvent, on le fait. Mais il y a un principe très simple, c'est que la nature n'aime pas le vide. Quand vous voyez un verre qui est vide, en réalité, il n'est pas vide, il est plein d'air, s'il n'y a pas d'eau. Ou un verre qui est à moitié vide, il est à moitié plein d'air, à moitié plein d'eau. Il n'est pas vide. D'accord ? Et de la même façon, Jésus est équilibré, il dit « Ce que vous liez sera lié, ce que vous déliez sera délié. » Donc, il n'est pas question seulement des influences négatives et démoniaques, parce qu'on n'a aucun intérêt à délier les démons. Ils sont assez grands pour nous embêter comme ça, mais dans le nom de Jésus, on peut les lier. Mais quand on lie des choses, on peut aussi délier des choses. Il y a des choses que Satan voudrait faire, que nous pouvons lier, nous avons l'autorité pour ça, et des choses que Dieu voudrait faire, que nous devons aussi délier. Délier la manifestation de Dieu sur la terre. Dieu pourrait faire ce qu'il voulait, ce qu'il veut, s'il voulait. Mais nous sommes appelés à délier l'œuvre de Dieu. Quand vous liez un démon, vous pouvez délier aussi la présence du Saint-Esprit, parce qu'on ne laisse pas quelqu'un vide ou un endroit vide. Quand vous liez des influences démoniaques, peut-être dans un endroit ou dans une réunion, vous déliez aussi la manifestation de la présence de Dieu pour nettoyer et pour vous faire du bien, pour remplacer. Quand vous liez une maladie, vous pouvez délier la santé, sinon la maladie peut toujours revenir si vous ne mettez rien. Hein? Tant que c'est vide, on peut toujours mettre quelque chose dedans. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous ne remplissez pas un moment dans la journée pour prier ou pour lire la parole, à la fin de la journée, il n'y a pas un moment qui a été vide. Il y a autre chose qui s'est mis dedans. Et si on ne remplit pas notre vie de la parole de Dieu, ça ne va pas être vide. Il y a toutes sortes d'autres choses qui se mettent à la place. Parce que toute la journée, on entend des choses, on voit des choses. Et même si on ne veut pas s'y soumettre ou les écouter, quand vous êtes dans différents endroits, vous êtes obligé parfois d'entendre certaines choses qui passent à la radio. Ou quand vous êtes dehors, vous voyez certaines affiches, vous n'avez pas le choix. Mais si vous n'êtes pas rempli de la parole de Dieu ou de quelque chose, c'est ce genre d'image, ce genre de choses négatives qui vont vous remplir. Jean 17, 17 dit quoi ? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc nous avons besoin d'être remplis de la vérité de Dieu. Amen. Remplis de la vérité de Dieu. La Bible dit aussi que c'est l'heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et tout à l'heure, ce verset a été pris et je me suis dit, c'est bien parce qu'ils sont en train d'introduire ce que j'ai à dire. Donc c'est l'heure, c'est pour aujourd'hui, adorer en esprit et en vérité. La louange, l'adoration, c'est la forme la plus élevée de prière. Et c'est une puissance de pouvoir dire la grandeur de Dieu, dire ce que Dieu a fait, élever le nom de Jésus dans la louange. C'est une puissance, ça nous fait du bien à nous-mêmes aussi en même temps. Bien sûr, ça réjouit le cœur de Dieu. Et c'est une proclamation dans le monde spirituel aussi de la puissance de Dieu, que nous sommes ancrés dans le Seigneur, etc. Et l'adoration, c'est aussi une puissance de vie. Et c'est comme ça qu'on peut refléter Dieu. Dans l'adoration, on contemple le Seigneur, on est dans sa présence et on reçoit sa nature en nous. C'est comme ça que nous sommes transformés de gloire en gloire. La louange et l'adoration, c'est tout aussi important que la prière parlée, si on veut. Il y a beaucoup de formes de prière. Donc c'est important et c'est l'heure de prier. Ce que nous dit Pierre, là, c'est voilà, la fin de toute chose est proche. Prier. Et il le dit en premier, donc c'est quelque chose de très important. C'est l'heure de prier. Est-ce que ce à quoi nous nous habituons quand tout va bien, ça devient beaucoup plus un réflexe naturel quand ça va mal? Si quand ça va bien, vous êtes habitué à louer Dieu, à adorer Dieu, quand ça va mal, votre réflexe, ça va être quoi? Ça va être aussi de louer Dieu et d'adorer Dieu. Et là, vous trouvez des solutions. Ensuite, il continue au verset 8. Avant tout, donc il y a quelque chose d'encore plus important. Ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Donc là, il nous parle de manifester un ardent amour. L'amour, c'est quelque chose de puissant et le monde a besoin d'amour. Tout le monde a besoin d'amour. Sans amour, on ne peut pas vivre. Et il y a eu des tests scientifiques qui ont été faits sur des bébés. À qui certains on leur donnait simplement à manger et c'est tout, et d'autres en donnaient à manger mais on s'occupait d'eux, on leur donnait de la tendresse. Et c'est seulement à cette condition-là qu'ils pouvaient se développer. Un être humain a besoin d'amour. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime, mais en plus que Dieu est amour. C'est sa nature. Donc nous sommes aussi appelés à manifester la nature de Dieu dans nos vies. Manifester un ardent amour. C'est une priorité, et j'ai presque envie de dire que c'est la priorité des priorités. Que ce soit Jésus ou les apôtres, nous avons toujours parlé de l'amour. C'est à ceci qu'on reconnaît mes disciples. Ou alors soyez enracinés et fondés dans l'amour. Et dans 1 Corinthiens 13, ça va plus loin, c'est sans l'amour, je ne suis rien. Donc l'amour est vraiment une priorité dans nos vies, mais aussi dans l'Église. Parce que nous sommes porteurs d'un espoir, nous sommes porteurs d'un message, et le message de Jésus-Christ, ce n'est plus ni moins l'amour. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait par amour. Et donc ça ne veut pas forcément dire de faire des compromis ou d'être conciliant. Parce que l'amour, c'est aussi l'amour de la vérité. Et quand on aime Dieu, quand on aime la vérité, on peut être amené jusqu'à détester ceux qui s'opposent à Dieu. Mais vous ne le détestez pas parce que vous vous montez contre ces choses, vous avez envie de les détester. C'est parce que vous aimez qu'en fait vous détestez certaines choses. Donc c'est faux de dire qu'un chrétien doit tout aimer. Oui, nous devons aimer les gens, mais on n'est pas obligé d'aimer tous les comportements des gens. Hein? Donc manifester un ardent amour. Donc ça veut dire que l'Église ne doit pas, sous modèle familial peut-être, de notre société, avec de plus en plus de familles composées avec soit deux hommes, soit deux femmes, et puis on veut leur accorder encore d'avoir des enfants, etc. Et certaines églises réfléchissent et se posent des questions à ce sujet et veulent parfois aller jusqu'à dire que finalement on peut tolérer parce que la Bible ne donne pas de modèle familial précis, etc. C'est quand même assez inquiétant. Et on fait ça au nom de l'amour. Je crois que nous devons avoir un amour vrai. Et l'amour vrai pour Dieu, ça nous amène forcément à devoir laisser certaines choses de côté. On ne peut pas être d'accord avec tout. Pour que l'Église soit puissante, elle a besoin d'avoir aussi des positions qui sont fortes. Nous sommes toujours vacillants, ou nous sommes à peu près sur certaines questions, ou parce qu'on ne veut pas blesser les gens. On met une limite aussi à la manifestation de Dieu, parce que si nous on est à peu près, Dieu peut seulement agir à peu près aussi. Ensuite, il continue encore, au verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Donc là, il nous est parlé de servir. Donc d'abord reçu. Donc il ne dit pas que ceux qui ont peut-être reçu un don servent peut-être. Il dit « servez chacun selon ce qu'il a reçu ». Donc nous avons tous reçu quelque chose de Dieu. Si vous prenez par exemple un sachet de semences, je voulais en avoir un, mais je n'en ai pas trouvé. Vous voyez souvent une image avec soit des carottes, soit une salade, soit une fleur dessus. Donc ça veut dire que potentiellement, vous pouvez obtenir ça. Sur le sachet, il y a ça. Mais maintenant, quand vous ouvrez, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ouvre, je vois des espèces de petites graines. Souvent, ce n'est pas très joli à voir. Mais ce n'est pas ce qui est sur l'emballage. D'accord ? Et peut-être que dans nos vies... Quand on regarde à nous-mêmes, on se dit « Mais attends, je ne ressemble pas à ce que Dieu dit de moi. » La parole de Dieu dit des choses de vous. Et Dieu a une image de vous, une autre opinion de vous. Et peut-être qu'en la voyant, donc c'est comme sur le sachet. Oui, d'accord, mais à l'intérieur, ce n'est pas ça, je ne suis pas comme ça. Oui, mais pour que la plante devienne ce que vous voyez sur le sachet, il faut faire quoi ? Il faut la semer. De la même façon, ce que vous avez déjà reçu de Dieu, qui ne ressemble peut-être pas à ce que vous êtes supposé devenir, mais il faut le semer. Il faut commencer à travailler avec ça. Et alors vous allez tout doucement commencer à devenir ce pourquoi vous avez reçu un potentiel de Dieu. Notre tâche, c'est de partager la grâce de Dieu. Si quelqu'un parle, soit comme annonçant des oracles, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le fasse selon la force que Dieu communique. Donc on peut se dire, mais attends, est-ce qu'à chaque fois que je parle, je dois faire comme si je prophétisais ? Sûrement pas, parce qu'un oracle, c'est une prophétie. Hein. C'est comme si Dieu parle. On n'est pas supposé parler toute la journée en versets bibliques ou à tout le temps en train de dire « Dieu m'a dit, le Seigneur m'a montré ». C'est pas ça qui nous est dit. Mais que nos paroles puissent être dignes du Seigneur. On n'a pas besoin d'avoir l'air d'espèces d'extraterrestres qui parlent en parabole toute la journée ou de façon tout le temps mystérieuse, mais que nos paroles glorifient le Seigneur. Que notre vie puisse glorifier le Seigneur, ça engage toute notre vie, ça engage notre comportement, ça nous engage tout entier. Mais Dieu peut se glorifier comme ça. Et c'est important que tous ensemble, nous apportions ce que nous avons à apporter. Chacun a une provision, en fait, qu'il a reçue de Dieu, qui est important d'apporter. Alors bien sûr, ça peut être de l'argent, mais ça peut être toute autre sorte de choses. Là, il nous est parlé de servir. Vous avez tous quelque chose de Dieu pour servir dans l'Église. Et donc, c'est important que vous le fassiez. Et c'est important que tous ensemble, tout le corps soit participant. Parce que même si moi, je veux avancer, si je veux marcher, par exemple, et que ma deuxième jambe ne veut pas, je peux avancer. Bon, je ne veux pas casser mon pantalon, mais je peux avancer. Mais à un moment, je suis coincé parce qu'il y a une partie qui ne suit pas. Okay? Et pareil, si c'est ma main. Donc, je suis là, j'avance. Si ma main ne veut pas, je suis coincé. Ou alors, il faut que j'arrache le bras, mais ça ne va plus. Tout le corps doit être participant. Nous sommes appelés à avancer ensemble, à remporter des victoires, à atteindre une vision que Dieu nous a confiée. Et nous voulons le faire, mais donc chacun doit être participant. Je ne peux pas laisser un morceau derrière. Et il n'y a personne qui suit simplement. Quand je marche, ma jambe ne me suit pas seulement. Tous les muscles de ma jambe travaillent pour avancer. Donc on a besoin de tous participer et comme ça on va avancer ensemble. La fin de toute chose est proche, donc on a besoin de prier, de manifester l'amour de Dieu et de servir. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Et un ambassadeur ne reste pas seulement dans son ambassade. Sinon, ça n'a pas d'intérêt qu'il soit là. Et nous sommes appelés à avoir une influence là où nous sommes. Dieu veut pouvoir se manifester. Et si nous sommes seulement dans une certaine limite ou juste entre nous, bon, la vie serait géniale. Imaginez un peu, on est sauvé, on va à l'église, on est bien, et puis on peut vivre tranquillement, expérimenter notre vie chrétienne, avoir des bonnes bénédictions, et puis on va au ciel, tranquillement. Ça serait super. Mais le problème, c'est qu'il y en a un qui n'est pas d'accord. C'est, d'une part, Dieu nous a donné une mission, mais pour l'accomplir, on est obligé de quoi ? De relever un défi et d'affronter les ténèbres qui ne sont pas d'accord. Satan n'a pas envie de céder du terrain. Mais nous non plus. Amen. Nous voulons être des conquérants. Et si vous prenez un thermomètre, que vous le mettez là, peut-être qu'il va, au bout d'un moment, il va dire, peut-être, je sais pas, 20 ou 21 ou 22 degrés. Et après, si je le mets dehors, au bout de quelques minutes, il va me dire la température qu'il fait dehors. D'accord ? Mais c'est pas pour autant qu'à l'extérieur, il va faire 20 degrés. Ou c'est pas pour autant, quand je le rentre de nouveau, qu'à l'intérieur, il va faire la température qu'il faisait dehors. Mais si maintenant, vous prenez un climatiseur, qui est équipé d'un thermostat, il est là, pareil, il prend la température, mais il se contente pas juste de prendre la température, il l'analyse, et en conséquence, et selon le réglage que vous avez fait, soit il envoie de l'air chaud pour chauffer, et quand c'est de nouveau bon, il s'arrête. Et ensuite, quand c'est de nouveau plus bon, il renvoie un coup d'air chaud. Ou alors de l'air froid, si c'est une clim pour l'été. Et nous voulons pas être simplement des thermomètres. Amen. Pour dire, oui, ce monde, c'est comme ça, ça va pas bien, ça se passe mal. L'église est faible, c'est vraiment pas facile. C'est la vérité, donc nous voulons aussi être lucides. On voit la vérité, et puis on réagit, selon le réglage que Dieu a fait, selon la vision que Dieu nous a donnée, selon ce que Dieu nous a donné, et alors on va intervenir sur ce qui se passe autour de nous. On va pouvoir commencer à intervenir. Et donc c'est l'heure, premièrement, de se réveiller, ensuite c'est l'heure de vivre l'église, et une fois que nous sommes vraiment dans la dynamique de l'Église, c'est l'heure de la manifestation. C'est l'heure de la manifestation. Nous sommes supposés amener cette lumière que nous avons partout dans les ténèbres. Et ce qui est merveilleux, c'est que par la foi, nous pouvons faire, nous avons en fait déjà toutes les victoires dont nous avons besoin. Parce que Jésus a tout accompli. Donc potentiellement, nous sommes déjà entièrement victorieux. C'est comme si par le sang de Jésus, Dieu avait signé le contrat, et nous, par notre foi, on signe aussi le contrat. Et du moment que les deux parties ont signé, le contrat est valable. Donc, quand je vais manifester la puissance de Dieu, parce qu'il a signé par son sang, et parce que j'ai signé par ma foi, il faut que ça marche. Il faut qu'il y ait la délivrance, il faut qu'il y ait la guérison, il faut qu'il y ait des miracles. Et c'est pour nous ça. Il faut que ça marche, et ça va marcher. Alors, est-ce que vous avez signé, vous ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a signé une fois quand on est venu à Jésus. Mais il y a des fois, on a besoin de signer comme... Parfois, quand on travaille, on a un avenant au contrat de travail. C'est-à-dire qu'il y a une petite modification pour une situation précise. Peut-être vous allez travailler un peu plus d'heures. Et là, encore une fois, il faut signer pour dire que vous étiez d'accord et puis pour être payé en conséquence. Du moins, c'était comme ça quand je travaillais dans un magasin, là. Donc, on faisait comme ça. Et nous aussi, parfois, Dieu nous donne une mission spéciale. Peut-être qu'on va être amené, soit on va faire une évangélisation, ou alors plus particulièrement dans un contact, on va avoir besoin de la puissance de guérison pour quelqu'un, ou d'amener la délivrance à quelqu'un. Et donc là, il y a comme un avenant au contrat. Aujourd'hui, tu as besoin d'une onction spéciale, d'un vêtement spécial pour faire ça. Donc Jésus a signé par son sang. Et moi, j'ai besoin d'exercer ma foi particulièrement pour ça, et de signer aussi. Et du moment que je l'ai fait, ça va marcher. Ça va marcher. C'est bien, non? Avec Dieu, ça marche. Et donc là, je vais juste faire une petite section que j'avais d'abord intitulée « Aux armes citoyens ». Mais après, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop provocateur, alors je me suis calmé. Mais pourtant, c'est ce qu'il nous est dit. Donc on peut tourner rapidement dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. Où il nous a dit exactement ça en d'autres termes, mais c'est ça qu'il nous a dit. Éphésiens 6 au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc c'est comme si on vous disait aux armes. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et d'habitude, on s'arrête là. Et on se dit, c'est bon, on a vu ce que c'est que l'armure. Mais aujourd'hui, j'aimerais continuer, verset 18. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Donc là, on retrouve des éléments qu'on a déjà vus tout à l'heure. Donc on a des armes que nous devons prendre qui concernent notre attitude. Il y a la foi, il y a le zèle, et puis qui concernent aussi les caractéristiques de Dieu en nous, qui sont sa justice, qui sont la paix qui nous est donnée par son évangile, qui sont sa vérité, et puis le bouclier de la foi et le casque du salut, l'épée de l'esprit. Donc c'est des choses que Dieu nous donne et que nous avons besoin, en fait, pour pouvoir, dans ce monde, faire ce que nous avons à faire. Et je pense des fois, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai travaillé à la commune en été, on faisait des petits travaux dans les champs, ou on tondait le gazon, ou des choses comme ça. Et puis un jour, on est allé au dépôt des pompiers, là, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, mais je ne savais pas, j'avais été étonné. Là-bas, il y a, le long du mur, il y a toute une série de bottes avec déjà le vêtement dedans. Et en fait, les pompiers, quand il y a un problème, ils arrivent et ils sautent dedans, ils sautent dans leurs bottes, ils mettent leur combinaison et ils partent. C'est déjà tout prêt. Et donc, pour eux, quand c'est l'heure, ils ont juste à venir et à prendre leur équipement et ils s'en vont. Ils gagnent du temps parce que leur équipement est déjà prêt. Et donc, quand il y a la sirène qui sonne, ils viennent et ils montent dans le camion et ils s'en vont. Et Dieu nous a donné une armure. Nous avons besoin d'être toujours prêts pour que quand Dieu dit « c'est l'heure », eh ben on est juste à sauter dans notre équipement et on y va. Parce que si le pompier devait encore chercher... d'habitude, c'est une combinaison, donc ça va. Mais s'il devait encore chercher après son casque, après il trouve plus ceci, après il a une botte qui manque, il sait plus où il l'a mis, pendant ce temps, ça brûle. Et Dieu nous a équipés pour que nous puissions être efficaces. Nous pouvons tous participer. Et ce qui m'intéressait, là, donc là où j'ai continué, verset, je prends déjà ce que Pierre disait, nous avons besoin de prier. Et ça dit, prier pour tous les saints. Alors les saints, c'est qui? C'est pas Sainte Marie, Saint Joseph, et ce que vous voulez. Les saints, c'est vous. Parce que saint, dans la Bible, ça veut dire mis à part. Vous avez été mis à part pour Dieu. Vous êtes saints et vous êtes sanctifiés par la parole de Dieu. Donc nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Et ensuite, Paul dit spécialement, priez pour moi afin qu'il me soit donné donc d'exercer mon ministère de la bonne façon. Donc on a besoin de prier les uns pour les autres et de prier aussi pour ceux qui exercent le ministère. Et en fait, j'aimerais dire que nous sommes participants les uns à ce que font les autres. Pendant que je prêche, là, il y en a parmi vous qui participent parce que vous avez prié pour moi. Quand quelqu'un fait la louange, nous participons parce que nous chantons et nous louons le Seigneur avec eux, mais aussi parce que nous avons prié pour eux. Nous prions pour eux régulièrement. Ceux qui enseignent les enfants. Même quand nous sommes en train d'écouter un message, nous participons à ce qu'ils font parce que nous prions pour eux. C'est comme ça qu'on peut être participant. Ça ne demande pas toujours de faire les choses physiquement à côté d'eux. On n'a pas besoin d'être à 20 là-devant. Mais en priant les uns pour les autres, nous participons. Et quand vous participez à ce que fait quelqu'un, vous récoltez aussi du fruit de ce que lui récolte. Alors c'est d'autant plus enthousiasmant de pouvoir prier les uns pour les autres. Dieu veut que nous puissions travailler ensemble pour manifester sa puissance. Moi, je suis convaincu que cette année, c'est vraiment une année spéciale. Il y a toujours des gens qui disent, au début de l'année, qui disent toutes sortes de choses. Mais en tout cas, moi, je me réjouis parce que je sais que cette année est spéciale. Elle est spéciale pour nous. Et je sais que cette année est spéciale si nous la faisons spéciale. Parce que Dieu peut dire quelque chose pour nous. Les cloches sonnent, c'est l'heure. Mais s'il n'y a aucune réaction, il ne va rien se passer. Si on reste assis à la porte de la ville, comme les lépreux, on ne va pas manger, et puis tout le monde va mourir de faim. C'est important que nous mettions en route vers la manifestation. Et j'aimerais prendre pour ça un exemple où on peut tirer des applications pratiques dans 1 Roi 18, à partir du verset 30, on va lire. Et donc c'est Élie qui se trouve dans un temps assez particulier parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Et puis ils se mettent au défi. Donc ils se mettent d'accord, Élie et les prophètes, que celui qui arriverait à faire tomber le feu du ciel, alors son Dieu serait le vrai Dieu. Et là, on a plusieurs choses intéressantes qu'on va pouvoir relever dans la façon dont Élie va procéder pour aller vers la manifestation, pour faire tomber le feu et en fait pour manifester la puissance de Dieu. Alors, 1 Roi 18, à partir du verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une deuxième fois. » Et ils le firent une deuxième fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Amen. Donc là, on va juste reprendre rapidement donc ce qu'ils ont fait. Premièrement, « Approchez-vous de moi. » Ils se sont réunis, ils se sont assemblés autour d'Élie. Donc pour nous aussi, c'est important de nous réunir, de se rassembler et d'être unis. En fait, ils se sont assemblés autour de lui pour quelque chose. Donc c'est important de se rassembler. Ensuite, l'autel de Dieu a été rétabli. Donc l'autel, c'est l'endroit où on va apporter une offrande, c'est l'endroit où en fait on veut honorer à l'époque, le Dieu ou la personne à qui il était dédié. Et là, en l'occurrence, il est rétabli au nom de l'Éternel. Parce que parmi le peuple, il y a des gens qui n'adoraient plus l'Éternel, qui avaient mis toutes sortes d'autres choses. Et là, donc, Élie va rétablir l'autel de l'Éternel. Donc, ils remettent Dieu à la première place. Ils recommencent à offrir leur vie en sacrifice à Dieu. Et on voit que c'est avec 12 pierres, correspondant aux 12 tribus, qu'il a été reconstruit. Donc, chacun a sa part dans la construction de l'Église. L'Église, c'est la maison de Dieu, c'est le sanctuaire, c'est l'endroit où on offre un sacrifice à Dieu. Donc chacun de nous avons notre part pour bâtir l'Église. Ensuite, ils ont creusé un fossé. Ils ont creusé un fossé avec de la capacité de 2 mesures de semence. La semence dans nos vies, ça peut être la parole de Dieu. Donc creuser un fossé dans nos vies, préparer un terrain réceptif, une bonne terre pour recevoir la parole. Ensuite, ils ont posé le taureau sur l'autel. Donc, je ne vous compare pas à des taureaux ou à des vaches. Mais le taureau, donc, en plus, était coupé en morceaux et il a tout posé sur l'autel. Donc, il a offert un sacrifice. C'est comme donner nos vies à Dieu. Et tous les morceaux, ça nous permet de comprendre que chaque partie de notre vie doit être donnée à Dieu. Il n'y a pas un domaine qui peut rester de côté si nous voulons une manifestation de Dieu. Toute notre vie en entier, tous les morceaux ont été déposés. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'on doit mourir ou qu'on doit faire quoi que ce soit pour Dieu. Il y a toutes sortes de mouvements et même de sectes qui amènent les gens jusqu'à se suicider. Et ils croient qu'ils ont raison de le faire, parce qu'ils se donnent en sacrifice. Le dernier sacrifice qui a été donné, c'est Jésus. Et son sang nous a lavés. Donc il n'y a plus besoin qu'une goutte de sang coule. Il n'y a plus besoin, Jésus l'a fait. Mais nous, de donner notre vie, eh bien, c'est de servir, tout simplement. C'est de mener une vie qui honore Dieu. C'est de se mettre au service de Dieu et au service des autres. Et alors, nous pouvons être un sacrifice agréable devant Dieu. Ensuite, les gens ont apporté de l'eau. Et on ne va pas faire beaucoup de calculs, mais ils ont apporté 3 x 4 cruches. Et 3 x 4, ça fait combien? Et il y avait combien de tribus? 12. Donc ils ont apporté, chaque tribu a apporté sa cruche d'eau. Pour nous aujourd'hui, chacun, on a vu tout à l'heure qu'on a reçu de Dieu des semences, des dons, et donc chacun a besoin d'apporter sa provision. C'est quand donc chacun participe, tout le monde a participé. Et à l'époque, là, l'eau c'était précieux, parce qu'ils n'en avaient pas en abondance. Chacun a apporté de ce qui lui était précieux, de ce qui valait quelque chose pour lui. Et nous sommes appelés aussi, nous, à apporter chacun, tous qui sommes ici, notre provision pour entrer dans la démarche vers la manifestation de la puissance de Dieu. Encore une fois, ça peut être de l'argent, oui, parce qu'il en faut. On ne fait rien dans ce monde sans argent, mais ça peut être aussi du temps, parce que souvent le temps nous est précieux. Ça peut être quelques paroles douces, parce que c'est pas toujours évident. Dans notre vie quotidienne, si on travaille dans une quelconque entreprise, on n'entend pas seulement des paroles douces. Donc c'est quelque chose qui devient précieux et parfois même rare. Dans ce monde, de pouvoir avoir une parole douce. C'est important que chacun apporte sa provision. Ensuite, Élie commence à prier. Il réclame la manifestation de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il demande pour qu'on voit que tu es le vrai Dieu et pour que ces gens reviennent à toi. Donc il ne prie pas seulement pour son propre intérêt. Et il ne demande pas quelque chose qui va seulement être bon pour lui. Mais il demande pour que Dieu soit élevé, pour que Dieu soit glorifié, et pour que des gens reconnaissent. Et au verset 39, donc on voit que les gens, tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Là, c'est la moisson. Amen. Le cœur des gens qui se tournent vers Dieu. Oui, ce Dieu-là, c'est Dieu. Donc nous, si nous prenons ce chemin, cette démarche, nous allons premièrement arriver à la manifestation de la puissance de Dieu. Ce feu qui tombe, ça peut être toutes sortes de choses. Ça va être les guérisons, ça va être les miracles, ça va être aussi l'atmosphère au milieu de nous. Des gens peuvent être touchés simplement en rentrant dans un local où nous sommes à cause de la présence de Dieu. C'est l'heure de nous préparer, c'est l'heure d'avancer ensemble vers la manifestation. Alléluia. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Est-ce que vous voulez voir la moisson? Amen. Moi aussi, moi je veux. Alors prenons-en le chemin. Nous sommes un choix stratégique de Dieu dans ce temps où nous sommes, Donc c'est l'heure de nous réveiller, de nous engager avec Dieu, de relever les défis qui sont devant nous, d'oser croire. Et puis c'est l'heure de vivre l'Église. Parce qu'en fait, l'Église, c'est comme notre base. Si vous prenez une armée, ils ont des quartiers généraux. Notre base, c'est là qu'on se fortifie, c'est là qu'on s'entraîne aussi. Et puis après, c'est l'heure de la manifestation. Alors on sort et on montre au monde qui est notre Dieu. Et alors viendra la moisson. Et Dieu va être glorifié par-dessus tout. La chose que nous recherchons le plus, c'est que Dieu soit glorifié. Et qu'un maximum de gens puissent venir à lui. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui bougent. Alors ce matin, c'est l'heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu es grand, Seigneur, et tu ne nous laisses pas comme des ignorants ou comme des aveugles. Seigneur, tu nous montres où nous sommes, ce que nous avons à faire, dans quel temps nous vivons. Et Seigneur, tu nous fais comprendre que c'est l'heure. Merci Saint-Esprit ce matin pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu agis, Seigneur, dans les cœurs. Merci parce que tu as commencé à œuvrer. Merci pour ce message que tu viens déposer toi-même dans les cœurs, Seigneur. Et merci parce que tu donnes à chacun, dans son cœur, la conviction et aussi la foi nécessaire, la capacité, l'audace de relever les défis. Seigneur, tu nous donnes d'encore plus manifester l'Église, les caractéristiques de l'Église dans ces temps où nous sommes. Et Saint-Esprit, tu nous fortifies, tu nous rends capables et tu nous accompagnes, tu nous conduis, tu nous guides jusqu'à la manifestation. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous voulons voir ta puissance. Et nous voulons voir des hommes et des femmes qui se tournent vers toi. Seigneur, oui, nous ne sommes rien, mais en toi, nous avons été transformés. En toi, nous devenons quelque chose, nous devenons quelqu'un. Et Seigneur, nous ne voulons pas priver. Nous ne voulons pas priver les gens, priver nos contemporains de ta bonté, de ta grâce. Merci Seigneur de nous remplir encore. Béni soit ton nom Seigneur. Amen.